Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver et de repartir en vadrouille avec vous. Dans les carnets ensemble, on écoute le monde changer. Avec cette actualité globalement très difficile, la pandémie, les fanatismes, la violence. Mais heureusement, vous l'entendrez, il y a aussi des évolutions qui vont parfois dans le bon sens. C'est aux États-Unis qu'on va d'abord poser le micro, car l'élection de mardi est potentiellement porteuse de grands changements, quoi qu'il advienne. Trump, Biden, les panneaux de propagande inondent les pelouses des Américains. Parfois, il y a même deux candidats sur un même terrain, signe d'une famille divisée, comme l'Amérique. Reportage en ouverture dans un instant. Puis nous irons en Turquie, où le président Erdogan a pris la tête d'une campagne contre la position française sur les caricatures et la liberté d'expression. On va prendre la température à Istanbul. On sera aussi au Mexique, dans une région pauvre du pays, où les autorités ont décidé d'interdire la vente aux mineurs d'aliments trop sucrés, trop salés ou trop gras. Et toujours dans cette même région, grâce entre guillemets à la pandémie de coronavirus en quelque sorte, les paysans redécouvrent une céréale oubliée et retrouvent une certaine souveraineté alimentaire. Vous rencontrerez aussi une auteure iranienne, Dina Nayeri, qui a écrit un bel essai sur les parcours d'exil. Enfin, il y aura de la musique, grâce à Angèle Châtelier qui nous fera découvrir le premier album d'une chanteuse canadienne. Et puis Joseph Chovanec, bien sûr, qui nous emmènera en autistan, ce sera juste avant 14h. Les carnets sont ouverts et on file à New York.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
J-2. Mardi, les Américains qui n'auront pas encore voté par anticipation ou par correspondance iront déposer leur bulletin dans les urnes. Plus de 250 millions d'électeurs en tout pour un scrutin incertain, même si le démocrate Joe Biden garde une certaine avance dans la plupart des sondages. Cette campagne aura agi comme un révélateur des profondes divisions qui déchirent l'Amérique. Bonjour Xavier Yvon.
Hello Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant permanent d'Europe 1 aux États-Unis. Ces fractures, vous nous les avez racontées au fil des mois et même ces dernières années, hein, fractures sociales, sanitaires, raciales. Et aujourd'hui, deux hommes, Donald Trump et Joe Biden, portent deux visions très différentes du pays. Des divisions qu'on retrouve parfois au cœur des foyers américains. Alors on vous suit, Xavier, en reportage, sous les panneaux électoraux.
Le drapeau bleu Trump couvre tout un étage de la maison. Il m'a coûté 600 dollars, raconte fièrement Jennifer, gérante d'une station de lavage de voitures dans cette petite ville au milieu de l'Ohio. On soutient le président, dit-elle, parce qu'il est bon pour nous, les PME. Biden, ce serait le retour des impôts trop lourds. Et si vous n'aimez pas le drapeau, j'espère que ça va vous faire voter, explique Jennifer avec un peu de provoque. Que vous votiez pour Trump ou pour Biden, allez voter. Sur les routes de campagne du Midwest, là encore, le soutien à Trump saute aux yeux. Devant les maisons de mes voisins, il n'y a pas un panneau, il y en a quatre ou cinq. Ils en font des mausolées, explique Chris, l'un des rares fermiers anti-Trump. Ces gens ne disent pas seulement « je soutiens le président », ils le hurlent à leurs voisins. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur, analyse Chris, ils sentent la peur de perdre. Si les régions rurales sont un terreau fertile pour les panneaux Trump, les zones plus urbanisées, elles, voient fleurir les affiches Biden, notamment dans les fameuses banlieues résidentielles où vivent ces mères au foyer électrices si convoitées par les deux candidats. Melinda, par exemple, voit beaucoup plus de signes de soutien aux démocrates que d'ordinaire, plus de Joe Biden que d'Hillary Clinton il y a 4 ans.
En 2016,
on voulait rester en bon terme avec nos voisins, explique-t-elle. On appelle ça la gentillesse du Midwest. Mais cette fois, les gens en ont ras-le-bol. Ils sont conscients du danger de 4 années de plus de Trump. Melinda a donc décidé de planter un panneau Biden dans son jardin et d'en proposer autour d'elle, notamment à son voisin immédiat qui vient d'arriver dans sa rue pavillonnaire.
Il m'a dit non, ça va. Et le lendemain, dans son jardin, il y avait un panneau Trump d'un mètre par deux avec des lumières. Alors je suis allée voir la voisine d'après et je lui ai demandé si elle voulait une pancarte démocrate. Et elle a dit, il faut que je te montre un truc. Elle a déployé un panneau Biden d'un mètre par deux et le lendemain, il était planté dans son jardin avec des lumières.
On se reparlera peut-être après, conclut Melinda, mais pour nous, c'est une question de vie ou de mort de notre démocratie. Les passions sont telles autour de l'élection que ces panneaux politiques deviennent des symboles à abattre. En Pennsylvanie, Wisconsin ou Ohio, partout, on raconte des histoires de pancartes volées ou vandalisées, comme chez Babette, une franco-américaine de Columbus.
Elle était déchirée dans la rue et on pense que c'est nos voisins. Donc j'ai hésité à en remettre un, mais je me suis dit je ne vais pas me laisser intimider. Je suis fière de mettre mon signe et s'il est volé, j'en ai un autre dans mon garage. Et là, c'est régulier. Nous, dans notre ville, en général, c'est plus le contraire qui se passe. C'est les panneaux de Trump qui disparaissent.
L'Amérique divisée se livre une guerre des panneaux électoraux et au sein même des familles, la tension est à son comble. Babette ne sait plus comment parler à ses beaux-parents. Trumpiste scotché devant Fox News toute la journée, son mari Alexander en arrive même à avoir des pensées presque inavouables.
Moi j'ai des fantaisies, c'est d'empêcher mes parents de voter ce jour-là en faisant quelque chose à leur voiture. Casser les pneus.
S'ils te demandent de les accompagner au bureau de vote, tu fais quoi?
Je fais un grand détour.
C'est rare, mais on trouve des familles où l'on arrive à coexister malgré les différences politiques. Chez les Cumfield, par exemple, dans un tout petit village à la frontière entre l'État de New York et la Pennsylvanie. Dans le jardin, il y a des panneaux Biden et Trump, côte à côte. C'est Lurch, le père de famille à la longue barbe grise, qui ouvre la porte.
Well, Trump is all because of me. And my daughter's for Biden.
Trump, c'est moi. Biden, c'est ma fille, explique ce tailleur de pierre, qui ne voit pas où est le problème.
What's the big deal?
De toute façon, dit-il, si j'enlève les siens, elle enlèvera les miens. Au téléphone, Sabrina confirme. Elle rentrera bientôt du travail et elle explique qu'elle arrivera parfaitement à parler politique avec son père, comme tous les jours.
Si Trump dit qu'il soutient les petits artisans, je peux comprendre pourquoi mon père y croit. Et d'un autre côté, quand Biden dit qu'il veut des actions contre le changement climatique, mon père peut comprendre pourquoi je soutiens ça. Au bout du compte, vous savez, Trump et Biden, ils ne savent pas qui on est. Alors pourquoi on les laisserait nous affecter si profondément? Mon père, je l'aime.
C'est parfaitement dit, chérie.
Papa Trump, fille Biden et entre les deux, maman indécise. Anna a voté Trump il y a 4 ans, mais elle n'est pas sûre de recommencer.
On voulait du changement, un changement radical. Et mon vieux, on a eu du changement radical. On a déjà donné une chance à Trump, c'est peut-être le moment de donner la sienne à Biden. Mais aucun des deux ne motive beaucoup. On a le droit de ne pas être d'accord entre nous. Ça montre des esprits sains, éduqués, la liberté de choix. C'est ça l'Amérique, non?
L'Amérique divisée donc à l'heure du choix, mais unie autour d'un mot d'ordre que l'on retrouve aussi sur beaucoup de panneaux à travers le pays. Allez voter.
Voilà pour le reportage. Alors beaucoup de nouvelles inscriptions sur les listes électorales de vote par anticipation ou par correspondance. C'est un signe d'une indéniable mobilisation, même s'il est difficile de savoir à quel camp ça profitera. Il faut voter, disent ces Américains, Xavier Yvon. Sauf qu'ils ne sont pas tous égaux devant le scrutin, expliquez-nous.
Et oui, à cause du système électoral, seuls quelques États sont vraiment décisifs dans la course à la Maison-Blanche. Vous les connaissez, c'est les fameux swing states. Ouais. Et pour comprendre, je vais vous emmener sur un joli pont au-dessus de la rivière Delaware. D'un côté, on a l'État de New York, de l'autre côté, la Pennsylvanie. Alors chaque rive se ressemble, c'est très beau, avec des magnifiques feuillages d'automne, rouge, orange et jaune. Et pourtant, si vous habitez côté Pennsylvanie de la rivière, votre vote aura beaucoup plus d'importance que si vous vivez côté New York. Écoutez ces habitants croisés sur le pont.
C'est mieux de voter en Pennsylvanie parce que mon vote compte plus. La Pennsylvanie, c'est un swing state. New York, c'est démocrate et on s'en soucie jamais. Mais la Pennsylvanie peut pencher d'un côté ou de l'autre.
Nos votes dans l'État de New York devraient compter autant. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi ce serait eux qui décident qui est le président? Ce n'est pas juste.
It does not matter as much because
mon vote ne compte pas tant que ça à cause du collège électoral. Ça me dégoûte. C'est un système archaïque dont il faut se débarrasser.
Le collège électoral, alors c'est le moment de bien nous réexpliquer, Xavier, pourquoi il y a une telle différence, comment ça marche?
Alors, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, ce sont les États qui élisent le président. Chaque État dispose pour ça de grands électeurs, dont le nombre varie en fonction de la population. Le candidat à la Maison-Blanche qui a le plus de voix dans un État gagne tous les grands électeurs de cet État, il n'y a pas de proportionnel. Dans la plupart des États, il n'y a jamais de surprise. On sait par exemple que la Californie ou New York sont des bastions démocrates imprenables, tout comme le Kansas, le Mississippi ou le Tennessee par exemple sont acquis aux républicains. Ces États sont d'ailleurs tellement gagnés d'avance pour les deux camps qu'ils sont comme gommés de la campagne électorale. Aucun candidat ne vient y faire de meeting, aucun ne dépense d'argent en publicité politique dans les radios et les télés locales. C'est pas la peine, puisque tout se joue dans les quelques États indécis qui basculent d'un camp à l'autre en fonction des années, comme la Pennsylvanie. C'est pour ça que d'un côté du pont, vous avez en ce moment des candidats et leurs alliés qui viennent presque tous les jours, et de l'autre côté, on ne les voit jamais.
Alors c'est à cause ou grâce à ce système électoral que Donald Trump a gagné il y a 4 ans, alors qu'il avait perdu le vote populaire, hein, on s'en rappelle, il avait eu moins de voix qu'Hillary Clinton sur l'ensemble du pays.
Exactement, et les chiffres sont assez fascinants. Hillary Clinton a reçu environ 3 millions de voix de plus que Donald Trump en 2016, mais ce qui a compté, ce sont les quelques 80 000 voix qui ont permis au milliardaire de rafler sur le fil la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. 80 000 voix qui ont donc compté plus que 3 millions. Et ça pose des problèmes de représentativité qui sont de plus en plus contestés. Vous l'avez entendu chez cette habitante de New York, ce système fait qu'un président, Donald Trump, minoritaire dans ce pays, a pu nommer pendant son mandat un tiers des juges de la Cour suprême qui, eux, siègent à vie et décident des grands sujets de société pour tous les Américains.
Ouais, vous nous parlez d'un système de plus en plus contesté. On sait que beaucoup craignent que le résultat de l'élection ne soit pas accepté par un camp ou l'autre. Les ventes d'armes ont atteint cette année des niveaux records et la situation est tendue au point, vous le rappeliez Xavier dans votre journal de campagne vendredi, que le géant de la distribution Walmart a retiré armes et munitions de la vente dans ses magasins cette semaine. Alors on suivra ça avec vous, Xavier, avec Théo Manval aussi. Nuit américaine sur Europe 1, depuis Europe Soir mardi avec Julien Bugier, puis toute la nuit et toute la journée du lendemain mercredi pour faire vivre ces élections. Merci Xavier, à très vite.
À très vite.
Et on file en Turquie dans quelques instants, la Turquie où le président Erdogan a appelé au boycott des produits français.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
3 personnes tuées jeudi à l'arme blanche à Nice, 2 semaines après l'assassinat du professeur de collège Samuel Paty. La violence extrême de l'islamisme sur fond de crise avec le monde musulman. En cause, ce sont toujours les mêmes vieilles caricatures. Ce droit à dessiner, y compris le prophète Mahomet, droit revendiqué par Emmanuel Macron au nom de la liberté d'expression. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
Celui qui a pris la tête de cette fronde anti-française, c'est le président turc Recep Tayyip Erdogan. Vous revenez d'Istanbul, Jean-Sébastien, vous êtes allé voir si cette polémique était une stricte bataille diplomatique ou si elle gagnait la rue. Alors pour ça, vous avez rencontré un électorat nationaliste et traditionnaliste, celui qu'Erdogan cherche soigneusement à conserver en alimentant cette polémique. Je propose qu'on écoute votre reportage et puis on vous retrouve ensuite.
Fatih se faufile au milieu de modestes pierres tombales. Autour de lui, il nous présente ce qu'il considère être une sorte de panthéon de l'époque turque des Lumières. Il s'arrête même quelques instants devant le caveau de celui qui a inspiré Mustafa Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne, de sa laïcité. S'il donne rendez-vous ici, c'est pour montrer son ouverture. Les caricatures de Charlie Hebdo lui déplaisent, mais elles relèvent bien, selon lui, de la liberté d'expression. Elles ne valent pas un tel scandale, dit-il. Surtout, Fatih ne comprend pas pourquoi Recep Erdogan s'en prend soudainement à la France.
Il y a une très grande contradiction dans le comportement d'Erdogan. Il y a peut-être des comportements islamophobes en France. Il y a peut-être des comportements islamophobes en Europe. En revanche, ça n'a rien à voir avec le niveau de violence contre les musulmans en Chine. Regardez ce qu'il se passe avec les Ouïghours au Turkestan. Erdogan n'en parle que très rarement et lorsqu'il en parle, il reste très discret. Il y a trop d'intérêts économiques en jeu et beaucoup à perdre de se fâcher avec Pékin. Mais vis-à-vis de l'Europe, il fait un scandale. Je trouve ça déplacé par rapport à ce qu'il se passe en Chine.
À peine trentenaire, Fatih exprime la pensée de ce nationalisme dépoussiéré, celui qui ne soutient plus Recep Erdogan, au contraire des plus anciens qui passent leurs après-midi entre hommes, dans des cafés embrumés par les fumées de cigarettes. Là, rien ne peut en théorie arrêter la sacro-sainte partie de Rami, sauf lorsqu'il s'agit de religion. Chaban n'hésite pas à parler de guerre de religion provoquée par les propos d'Emmanuel Macron.
Non, nous ne le voyons pas comme une question de liberté d'expression. Quand on voit ça, ce n'est pas de la liberté d'expression. C'est une attaque contre notre religion. Macron a créé cette polémique tout seul. Le peuple français n'y est pour rien. Ce président veut que musulmans et chrétiens se tapent dessus. C'est ma vision et celle du peuple turc. Macron est partout, on regarde. Libye, Syrie, Méditerranée, il est partout. Et tout ce qu'il fait, c'est contre les musulmans.
Personne autour de lui pour dire qu'il va trop loin, pas même dans le quartier d'origine de Recep Erdogan. Kassim Pacha ou Ramazan a ses habitudes et où il assure que dans ce labyrinthe de rues étroites et escarpées a grandi le meilleur défenseur de l'islam.
Il ne le fait pas uniquement pour nos beaux yeux, il le fait pour l'ensemble du monde musulman parce que c'est un leader mondial. C'est une question d'équité pour défendre les musulmans opprimés. Quand il y a de l'injustice, il est là. Il y a une attaque contre le pays et les musulmans, Erdogan a raison de répondre par un boycott. Puisqu'on nous provoque, il est obligé de répondre à une attaque qu'il faut bien qualifier d'islamophobe. C'est même raciste. Cette caricature a ciblé le prophète pour montrer que les musulmans sont des terroristes. Ce n'est pas correct. Ils nous dénigrent.
Ils, ce ne sont pas les Français ou les Européens, tous insistent là-dessus, mais bien leurs dirigeants avec Emmanuel Macron en tête de la liste. Istanbul, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Retour dans le studio avec vous, Jean-Sébastien, qui êtes toujours en ligne avec nous. Cette différence de traitement entre le président français et les Français en général, vous l'avez clairement ressentie, vous, sur le terrain.
Oui, car tout au long de mon séjour à Istanbul, je n'ai à aucun moment ressenti une quelconque hostilité. Au contraire, j'y étais très bien accueilli partout, et ce, quelle que soit la frange de la population rencontrée. Chez les plus libéraux, évidemment, pas de problème. La question de la liberté d'expression, ça prime sur la polémique. Mais même dans les quartiers traditionnalistes, où c'est l'islam qui prend le dessus, dans les quartiers totalement acquis à la cause du président Erdogan aussi, aucune réticence à parler à un média français. L'accueil est même très chaleureux. Il y a une volonté de ne pas apeurer les touristes. C'est une part importante de l'économie de la Turquie. C'est 50 milliards de dollars de revenus par an avant la crise du coronavirus. Et puis, leur discours, c'est clairement de dire « Regardez comme nous sommes différents de vous. Nous recevons les étrangers comme des amis. » Même si, évidemment, leur vision du traitement des musulmans en France est largement faussée par la propagande du pouvoir. Je rappelle que Recep Erdogan considère que les musulmans en Europe subissent le même sort que les juifs avant la Deuxième Guerre mondiale.
Une propagande qui est allée jusqu'à demander le boycott des produits français. Ça se manifeste comment, ça, Jean-Sébastien ?
Eh bien, c'est encore difficile à mesurer, mais au lendemain de cet encouragement au boycott, beaucoup de produits français étaient encore dans les rayons des épiceries de quartier, notamment dans le quartier de Recep Erdogan. Il y avait des crèmes dessert, des produits laitiers essentiellement, et puis j'ai l'impression que les Turcs étaient un peu perdus. Ceux qui voulaient boycotter ne savaient pas vraiment quels étaient les produits français. Il y a par exemple une marque de lait locale, c'est la marque turque numéro 1, mais le propriétaire... c'est un grand producteur français. Et puis, preuve qu'il s'agissait parfois de réactions un peu automatiques, pas très réfléchies, il y a eu par exemple des drapeaux bleu-blanc-rouge détachés de certains frontons d'hôtels, sauf qu'il s'agissait de drapeaux russes et non pas de drapeaux français.
Eh oui, les couleurs du drapeau russe sont à l'horizontale et pas dans le même ordre. Merci Jean-Sébastien pour cet éclairage sur la fronde menée par la Turquie et le positionnement d'Ankara vis-à-vis de la France. À très vite.
Merci, à vous, à bientôt.
À suivre, de la douceur, de la musique venue d'ailleurs, c'est Angèle Châtelier qui nous rejoint dans un instant.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Et voici la page culture des carnets du monde avec cette semaine de la musique. Une musique dans le monde, et celle qui nous fait découvrir des artistes d'ailleurs, c'est Angèle Châtelier. Bonjour Angèle.
Bonjour Sophie.
C'est au Canada que vous nous emmenez cette semaine avec Elena Deland et son premier album « Someone You ».
Deland rappelle celle de Cat Power, un peu, je trouve, un peu cassée, délicate, et sa musique appelle à la rêverie, elle apaise Sophie.
Mmh. très apaisant. Ouais. Elena Delande est donc citoyenne de Montréal.
Et oui, elle y habite depuis 8 ans, à l'autre bout du monde, depuis sa chambre. Elle m'a un peu dépeint sa ville.
C'est une ville qui a beaucoup à offrir en termes de diversité, autant au niveau des saisons. C'est sûr que c'est comme un lieu qui change toujours au fil de l'année. Puis c'est aussi une grande diversité culturelle, puis c'est pas cher, fait que ça permet aux artistes de pouvoir, je pense, passer plus de temps sur leur art, étant donné qu'ils ont rarement à avoir... Ben, pas qu'ils ont rarement, mais qu'ils ont besoin de moins travailler pour survivre, là, dans le fond, là, t'sais. Puis, ouais, je dirais que c'est très accessible comme ville. I need to get out of the house today to try. Someone New est le premier album d'Elena Delande, mais sa musique, elle la cultive, elle la construit depuis longtemps déjà, comme ses pensées féministes. Someone New est aussi le titre qui ouvre son album, et dedans, elle y parle du fait d'être désirée par les hommes, mais surtout du regard qu'ils posent sur nous. Et elle s'interroge jusqu'à quel point ce regard prend de la place dans la construction de mon identité. Cette chanson est féministe, oui, mais ce n'était pas prévu, m'a-t-elle dit. C'était pas le but recherché, mais oui, je pense qu'elle est féministe parce que, ben, tu sais, je pense que toute ma musique l'est parce que je me considère préoccupée par des questions qui intéressent le féminisme, tu sais, puis qui sont en fait très personnelles. C'est ma manière très interne de vivre le, tu sais, le regard masculin, puis d'essayer de me définir à travers lui, de sentir que je me mets en compétition contre d'autres femmes au lieu d'essayer de les élever, puis questionner ça.
Delande est lancinante, un peu obsédante presque.
Oui, d'ailleurs je lui ai raconté comment je l'avais écoutée la première fois, enfin la première fois que j'ai écouté son album. Oui. J'étais chez moi sur mon fauteuil moelleux en chaussons avec mon chat roux sur les genoux et une tisane et tout de suite elle m'a fait divaguer, alors je vous conseille de faire de même et puis elle aussi.
C'est vraiment une belle façon de l'écouter, c'est clair que si ça peut offrir du réconfort, c'est idéal. C'est un peu partagé par rapport à ça, je me suis fait dire que c'était vraiment déprimant comme album. Mais bon, je préfère si ça peut rapporter du réconfort, c'est sûr.
C'est pas déprimant?
Non,
c'est très moelleux comme votre fauteuil.
Voilà, exactement. Alors cet album vous apaisera, il ne va pas vous déprimer, il adoucira vos soucis, votre colère, votre anxiété, en attendant qu'elle traverse l'Atlantique pour venir nous le présenter.
Voilà, allez écouter Someone New, l'album de la Canadienne Elena Deland. Merci, merci beaucoup Sophie. Pour la découverte, Angèle, oui. Et puis pour l'apaisement. On va en avoir bien besoin, c'est oui. Parfait. Merci. L'étape suivante des carnets nous emmène au Mexique, où un État pauvre du sud du pays a décidé de prendre à bras le corps la question de la malbouffe, notamment pour ses jeunes. A tout de suite.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
On va maintenant traverser l'Atlantique, direction le Mexique, où la situation est aussi très difficile. Le pays compte plus de 90 000 morts de la Covid-19, notamment à cause de comorbidités assez fortes, par exemple celle du poids. Au pays des Aztèques, 73% de la population est en surpoids et 29% est obèse. Le gouvernement s'arrache les cheveux pour éloigner en particulier les enfants de la malbouffe. Une loi oblige désormais l'industrie alimentaire à clairement mentionner sur les emballages et dans les publicités quels sont les excès de graisse, de sel ou de sucre de leurs produits. Mais un État du sud du pays, le Oaxaca, a décidé d'aller nettement plus loin en interdisant purement et simplement la vente de malbouffe aux mineurs. Écoutez ce reportage de Laurence Cuvillier.
Entrez dans un mini super au coin d'une rue mexicaine et cherchez quelque chose de sain à vous mettre sous la dent. On parie que vous ressortirez bredouille. Sofia Hernandez a 55 ans. Elle est vendeuse dans une boutique à Oaxaca, la capitale de l'État du même nom. Elle voit les mêmes scènes se répéter chaque jour.
Il y a des parents qui arrivent ici à 8h du matin avec leurs enfants. Ils leur achètent un donut, un paquet de chips et une bouteille de coca. Et voilà, ce sera leur petit déjeuner. Ça me fait vraiment mal au cœur. Moi aussi j'ai des enfants et je les ai éduqués à ce qu'ils ne consomment pas trop de ces choses-là, mais la malbouffe nous a complètement envahis.
Depuis quelques mois dans le pays, tous les aliments commercialisés doivent porter une mention claire et visible des excès nutritionnels avec une efficacité toute relative. Sofia examine un paquet de madeleines à 40 centimes d'euros.
Voyons voir, c'est écrit excès de calories, excès de sucre, excès de graisse saturée.
Et est-ce que ces étiquettes ont eu un effet sur vos clients ?
Non, pas du tout. Les gens ne les regardent même pas.
Sofia l'avoue, elle n'est pas très fière de vendre ça. Mais au moins désormais, elle peut et même elle doit refuser la vente de sucreries et de soda aux mineurs grâce à une nouvelle loi votée dans cet état rural du sud-ouest du pays. Depuis le mois d'août, Luis Angel, 14 ans, ne peut plus satisfaire ses fringales comme avant.
Parfois, j'ai une furieuse envie d'un paquet de chips. Alors avant, je serais allé me l'acheter, mais bon, avec cette nouvelle loi, je peux plus.
Mais chasser la malbouffe par la porte, elle reviendra par la fenêtre de votre smartphone.
Je reçois tout le temps des pubs. Ils devraient quand même vérifier l'âge des gens à qui ils les envoient. Parce que moi, forcément, ça me donne encore plus envie d'en acheter.
Luis Angel me montre ce qui défile sur son compte Instagram. C'est effectivement très riche en sucre.
Voilà des donuts, par exemple, et là, des barres chocolatées.
Et puis Luis Angel a mis en place des stratagèmes. Il demande à son grand frère, majeur, d'aller lui acheter ses menus plaisir. Même avec des lois drastiques, l'enfance dans le Oaxaca restera dans une certaine mesure biberonnée au soda. Magali Lopez est députée de gauche au Congrès local. Novice en politique, c'est pourtant elle qui a réussi à faire voter cette loi début août.
Cette initiative fait polémique. Elle est très innovante. C'est sans précédent en Amérique latine. Dans le Oaxaca, on a un problème d'obésité mêlé à un problème de dénutrition des enfants. Et c'est très grave. Les enfants doivent être notre priorité à nous les adultes.
Ça n'a pas été facile. Magali a dû affronter menaces et intimidations des lobbies agro-industriels et de leurs alliés, pour qui les enfants sont un marché facile à convaincre et malléable à souhait. La jeune députée est bien consciente que le changement ne se fera pas du jour au lendemain, surtout quand les enfants restent exposés au bombardement marketing, alors même que toutes les écoles du pays sont fermées depuis mars à cause de la crise sanitaire.
Malheureusement, avec la pandémie, les enfants ont été littéralement collés à la télévision et aux réseaux sociaux. Ils passent leur temps sur les écrans parce que les écoles n'ont pas encore rouvert. C'est très épineux car il n'y a aucune base juridique qui nous permet d'interdire aux marques de faire de la pub ciblée.
Pour ne rien arranger, comme partout ailleurs, les commerçants du Oaxaca passent une année terrible. Leurs ventes se sont effondrées. Alors leur retirer toute leur jeune clientèle risque d'être pour eux le coup de grâce. En résumé, combattre l'obésité n'est pas une mince affaire. À Oaxaca, Laurence Cuvillier, Europe 1.
Voilà, retour dans le studio d'Europe 1 et on est en ligne avec Laurence Cuvillier à Mexico. Bonjour Laurence.
Bonjour Sophie.
C'est assez surprenant hein, que les habitants du Oaxaca semblent avoir si peu d'options pour leur alimentation, parce que vous l'avez dit dans votre reportage, c'est un état rural, fertile, où on devrait pouvoir cultiver à peu près tout ce qu'on veut, non ?
Oui Sophie, mais c'est un paradoxe qu'on retrouve dans de nombreuses régions du Mexique. C'est un pays aux terres très généreuses, mais le problème, c'est que depuis la signature des premiers accords de libre-échange avec les États-Unis en 1994, les produits américains ont littéralement déferlé vers le sud. Ouais. Alors à la fois les produits ultra-transformés et la malbouffe à bas prix, mais aussi les céréales subventionnées et produites massivement aux États-Unis. Alors résultat, il y a eu un double phénomène. D'un côté, des milliers d'agriculteurs mexicains ont arrêté de produire parce qu'ils ne pouvaient pas concurrencer les prix américains. Et de l'autre, les Mexicains, dans le même temps, se sont mis à consommer des aliments très gras et très sucrés auxquels leur métabolisme n'était pas du tout adapté. Alors petit détail assez affolant, il n'est pas rare désormais de trouver une bouteille de soda moins chère que son équivalent en eau dans les boutiques mexicaines.
Ouais, c'est vraiment inquiétant. Mais alors, dans ce paysage assez désespérant que vous venez de nous brosser, il y a des initiatives positives, comme cette loi qui interdit la vente de junk food aux mineurs, même si, on a compris, c'est parfois difficile à faire respecter. Et puis, paradoxalement, la pandémie, qui a mis un coup d'arrêt aux échanges commerciaux, a favorisé une nouvelle forme d'agriculture ces derniers mois.
Oui, tout à fait. J'ai rendu visite à une ONG qui fait un travail formidable dans la campagne à 1h30 de la capitale du Oaxaca. En fait, ils sauvent de l'oubli une céréale ancienne, l'amarante, qui est très nutritive et notamment riche en protéines. Ça ressemble un peu à la quinoa et l'ONG Puente a la Salud a déjà convaincu plus de 90 petits producteurs de commencer à la cultiver et surtout de la consommer. On va écouter Araceli Zarate, l'une des coordinatrices du projet.
L'un de nos critères, c'est que les agriculteurs gardent 10% de leur production de première qualité pour nourrir leur famille. Ici, quand on produit, d'habitude, on ne pense qu'à vendre. Et on sait que les producteurs ont besoin de ces revenus, mais on sait aussi que la qualité de leur alimentation, c'est primordial.
Ouais, donc cette alliance de petits producteurs, c'est aussi une réponse au risque de sous-alimentation de la population en ces temps de crise, n'est-ce pas ?
Oui, d'ailleurs, les producteurs n'ont pas baissé les bras depuis le début de la crise sanitaire. Au contraire, ils se sont tournés eux aussi vers la communication digitale, les groupes WhatsApp, les livraisons à domicile pour vendre leur production et apporter des aliments sains et locaux aux habitants de la région. Et d'ailleurs, le Oaxaca est un état fertile mais escarpé qui ne permet pas de pratiquer réellement une agriculture extensive. Donc, le postulat de Puente a la Salud, c'est que les agriculteurs partent perdants s'ils essayent de concurrencer les grandes entreprises céréalières ou maraîchères. Ils ont plutôt intérêt à se concentrer sur l'autonomie alimentaire et le commerce local. Je vous propose d'écouter Silvino Sarmiento, agriculteur à Tlaxiaco.
Dès qu'on a commencé à semer l'amarante, on a commencé à consommer ses graines, mais aussi ses feuilles. Ici, comme tous les petits agriculteurs, on ne semait que du maïs, des haricots rouges et des courges. On ne cultive pas grand-chose d'autre dans la région.
Voilà, mais alors je peux vous dire que Silvino m'a fait goûter du jus d'amarante, que ce sont les feuilles de la plante mixées avec de l'eau, du citron et du miel, et c'est un vrai délice. Les feuilles peuvent aussi se manger en salade ou cuites, comme des épinards. Bref, c'est vraiment tout bénef pour des agriculteurs comme lui.
Ouais, cette nouvelle culture sera sans doute précieuse dans les mois qui viennent, alors que le Mexique affrontera une récession à deux chiffres. Merci beaucoup, merci Laurence de nous avoir raconté aujourd'hui ce qui va dans le bon sens aussi, ça fait du bien. À bientôt.
Merci, à bientôt Sophie.
Et dans un instant, vous ferez la connaissance de Dina Nayeri. Elle est d'origine iranienne et vient d'écrire un livre sur la condition de réfugiés. À tout de suite.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Je vous présente maintenant une femme iranienne qui s'appelle Dina Nayeri. Elle est née à Ispahan il y a un peu plus de 40 ans, mais a dû fuir assez jeune car sa mère était menacée de mort pour s'être convertie au christianisme. 2 ans dans la clandestinité à Dubaï, puis l'Italie comme réfugiée dans un centre d'accueil, puis les États-Unis Et aujourd'hui, Dina Nahiri vit en Europe. Un parcours d'exil qu'elle raconte dans un livre, Faiseur d'histoire, au pluriel, car à travers son expérience, ce sont celles des exilés en général qu'elle observe. Je précise que cet entretien a été enregistré le mois dernier, il y a quelques semaines, lorsque Dina Nahiri nous a rendu visite à Europe 1.
L'histoire de ma vie, je pense, a toujours été une histoire d'exil, une histoire de déplacement, une histoire de nomadisme. Je suis devenue, je crois, un petit peu presque accro à ce déplacement en permanence. Il y a à la fois de la peur et en même temps un sentiment de sécurité là-dedans.
Vous êtes arrivée à 10 ans aux États-Unis. Vous avez fait un très beau parcours. Hein. Vous avez étudié à Princeton, à Harvard. Vous parlez de métamorphose, hein, comme un caméléon soucieux de s'intégrer à son environnement. Et pourtant, à un moment, vous expliquez avoir ressenti un grand vide. Et alors, vous avez eu besoin de partir à la rencontre d'autres réfugiés.
Oui,
c'était après.
Quand je suis arrivée en Amérique, comme beaucoup de réfugiés, ma première priorité, c'était de me débarrasser de cette identité de réfugié, de devenir américaine, de devenir comme tout le monde. Et je voulais être mieux que tout le monde. Je voulais être une de celles qui aurait fait quelque chose, qui aurait du talent, qui aurait de la valeur, parce que j'avais l'impression d'avoir si peu de valeur en tant que réfugiée. C'est pour ça que j'avais cette motivation à aller à Princeton, à Harvard et tous ces endroits-là. Mais ensuite, après avoir mieux compris qui j'étais, après m'être un peu posée et m'être sentie peut-être plus en sécurité, j'ai commencé à me demander vraiment qui j'étais au plus profond de moi. On ne peut pas ignorer ses origines toute sa vie. Je suis une Iranienne. Je suis une réfugiée. Je suis quelqu'un qui ne peut pas ignorer ces 10-12 premières années de ma vie. Alors j'y suis retournée et j'ai commencé à revenir sur ma propre histoire. J'ai commencé à poser des questions à ma famille, à regarder de vieilles photos, de vieilles vidéos, à écrire de la fiction à ce sujet. Et ensuite, j'ai commencé à aborder la question d'être réfugié en rencontrant d'autres réfugiés, en écoutant leurs histoires et en essayant de trouver les points communs avec la mienne. Et je voulais voir aussi comment le récit, la façon de décrire les réfugiés a évolué dans les 30 ans depuis l'époque où moi je l'étais.
En particulier après la crise migratoire de 2015, très forte, avec cet afflux très fort de réfugiés vers l'Europe. Vous êtes allé en Grèce, vous êtes allé à Calais, vous êtes allé en Angleterre, aux Pays-Bas, pour rencontrer des hommes, des femmes, des réfugiés qui peut-être avaient des histoires un peu différentes de la vôtre. Vous décrivez des grandes phases immuables quand même, ces points communs dont vous parliez. Il y a la fuite, il y a le camp, la tente, il y a la bataille pour obtenir l'asile, et puis l'assimilation, la nouvelle vie dans un nouveau pays qui vous accueille. Et l'histoire de la fuite, vous dites, ça forge l'identité d'une personne pour le reste de sa vie.
Oui, tout à fait. Ce que vous venez d'écrire, c'est vraiment l'architecture de ce livre. On part, on s'échappe et on devient défini par ça. Et on répète cette histoire encore et encore. Quand on devient demandeur d'asile, on doit attendre pendant des mois, pendant des années. Ce que j'ai trouvé intéressant dans toutes ces phases, c'est que même si elles arrivent aux réfugiés, il y a quelque chose d'universel là-dedans, qui s'applique à tout le monde. Moi, j'ai attendu 16 mois en tant que réfugiée. Vous, vous avez attendu sans doute dans votre vie pour des tas d'autres choses. Les gens ont exercé leur pouvoir sur nous en nous faisant attendre. Et c'est vrai avec les autres phases aussi de la vie du demandeur d'asile. Et j'avais envie que les lecteurs comprennent ça de manière viscérale, de vivre ces moments. Et je pense qu'ils peuvent faire le lien avec des moments de leur propre vie.
En particulier, vous parlez des camps ou des centres d'accueil en disant que ce sont des lieux qui façonnent une vie. Vous, vous avez passé 16 mois dans un centre d'accueil en Italie, à le centre de Barba, et vous en parlez comme d'un foyer. Vous dites que vous resterez à jamais défini, lié à cet endroit. Et on pense évidemment au camp de Moria qui a brûlé il y a quelques semaines, et on se dit... Les réfugiés qui étaient à Moria, ils vont aussi être définis, façonnés par les mois ou les années qu'ils auront passé à Moria.
Oui, tout à fait.
Vous
savez,
je suis hantée par l'époque que j'ai passée à Barba. Et il y a des choses qui me hantent encore là-dedans. En fait, c'était la coquille vide d'un ancien hôtel abandonné qui avait été transformé en centre d'accueil.
Et nous voyions tout ce monde extérieur dont nous ne pouvions pas être membres. Nous étions une communauté à part, nous créions nos propres histoires et on nous faisait surtout attendre. Et c'était terrible. Les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, nous n'avions pas la bonne langue, nous n'avions pas le droit de travailler. Et pourtant, les gens s'inventaient tous ces drames, ces histoires amoureuses, ces histoires de fuite. On se racontait nos histoires. Donc, il y avait une forme de vie, mais c'était aussi extrêmement traumatisant comme vie. Et quand je suis allée dans ces camps de réfugiés, je crois que j'essayais de retrouver des points communs avec ce que j'avais vécu. Et je les ai trouvés. D'abord, les gens étaient très volontaires et très généreux pour raconter leurs histoires. Ils n'arrêtaient pas de me préparer du thé, ils n'arrêtaient pas de vouloir s'installer avec moi et discuter. En fait, je ne suis pas allée à Moria, je suis allée dans un autre camp en Grèce continentale. Mais c'était des gens qui arrivaient de Moria. Et ils n'arrêtaient pas de me montrer les photos de Moria sur leur téléphone. Ils étaient extrêmement marqués par cette époque. C'était ces égouts à ciel ouvert, c'était ces files d'attente pendant des heures pour une nourriture absolument infâme. C'était l'enfer bien avant la pandémie. Et oui, ça les marquera à vie.
Dina Nayeri, dans ces moments d'attente dont vous parlez, il y a aussi l'attente par rapport à une demande d'asile. Vous parlez notamment de Kambiz, cet Iranien réfugié aux Pays-Bas, 36 ans, dont 12 ans aux Pays-Bas, et qui n'en a plus pu d'attendre et qui s'est immolé.
Kambiz, son histoire, elle m'a hantée. Parce que je vivais à Amsterdam au moment où ça s'est passé. Et je savais qu'il faisait partie de cette communauté iranienne, qu'il était réfugié et qu'il attendait ses papiers depuis plus de 10 ans. Et j'y réfléchis tellement longtemps après. Et quand j'écrivais ce livre, j'ai décidé d'aller retrouver ses amis, de retrouver les gens qui le connaissaient et de raconter sa véritable histoire. Ce qui est terrible dans cette histoire est extrêmement commun. Les gens attendent pendant des mois, les gens attendent pendant des années. On les garde dans des centres de rétention, on les libère, on les remet en centre de rétention. Ils vivent sur des parkings, ils vivent dans des champs, des endroits où personne ne voudrait passer du temps, et eux, ils y passent des années. Et le pire, c'est ce qui arrive à vos enfants. Vous arrivez avec une curiosité, avec un enfant qui a envie d'apprendre, qui est sportif, etc. Et il suffit de quelques mois d'attente pour que votre enfant devienne quelqu'un d'angoissé, qu'il perde sa curiosité. Toutes leurs habitudes changent, et ils changent pour toujours. Et évidemment, ça arrive également aux adultes. Ça provoque des dépressions. Il y avait quelqu'un à Amsterdam qui m'a dit, une des personnes qui l'aidait, si je vous dis d'attendre ici pendant 5 heures et que je vais revenir, vous allez utiliser ces 5 heures à faire quelque chose. Vous allez peut-être lire, vous allez peut-être travailler, puis ensuite je reviendrai. Mais si je vous dis d'attendre 5 minutes et que je reviens pour vous dire attendez encore 5 minutes et encore 5 minutes, je vais vous faire perdre ces 5 heures et je vais vous rendre dingue. Et c'est ça qui arrive aux réfugiés.
Vous parlez très bien de la dignité, de la difficulté de garder sa dignité dans ces moments-là. Vous dites que c'est très difficile parfois d'accepter la charité. Et ce n'est pas comme ça qu'on pense aux réfugiés quand on ne connaît pas la vie d'un réfugié.
Je crois qu'effectivement, les gens pensent à ces besoins fondamentaux. Ils se disent, bon, ces gens ont besoin d'être sauvés, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'être à l'abri. Personne ne se demande qui était cette personne avant de devenir réfugié. Peut-être médecin, peut-être ingénieur, peut-être artisan, qui avait une forme de fierté, une identité. Et maintenant, ce sont simplement des réfugiés. Parfois, on les fait attendre, en faire la queue devant un camion pour leur jeter des vêtements ou pour leur jeter des colis alimentaires. On ne pense pas à la manière dont on fait ça. En écrivant ce livre, j'ai trouvé une organisation humanitaire qui s'appelle Refugee Support qui m'a vraiment parlé. Toute leur mission, c'était de distribuer de l'aide, mais de façon digne, de trouver de meilleures manières de faire ces distributions alimentaires, vestimentaires pour les réfugiés, de manière à ne pas les priver de leur sentiment de fierté, de manière à ne pas les diminuer.
La dernière partie de votre livre, Dina Nayeri, évoque ce que vous appelez le rapatriement culturel. C'est ce moment dans la vie où vous avez tout fait bien ce qu'on attendait de vous et où votre pays d'origine ressurgit comme une nécessité. Une nécessité de retrouver ses racines.
Je crois que ça arrive à tout le monde, même sur un plan métaphorique. En grandissant, en vieillissant, J'ai maintenant la quarantaine. J'ai l'impression de devenir davantage moi, avec toute ma singularité. Je suis une personne unique, un individu unique. Et cet individu a besoin de toutes les parties qui la composent. Je ne peux pas ignorer une partie de moi, comme tout le monde. Donc je pense que nous retournons tous vers les parts de nous que nous avons peut-être négligées ou mises de côté ou niées. Et c'est ça que j'appelle le rapatriement culturel. C'est tout à fait universel. Pour moi, il s'agissait d'un pays, pour quelqu'un d'autre, ce sera un autre aspect de sa vie. Il y a une citation merveilleuse que j'aime beaucoup, dont je ne connais pas vraiment l'origine, mais qui dit « Nous sommes tous des immigrants d'un moment vers le suivant. Nous sommes tous des immigrants dans le temps. Nous avons tous laissé des choses derrière nous. » Et ça m'aide à moi à accepter mon propre déplacement. Voilà, je vous rappelle le titre du récit de Dina Nayeri, « Faiseur d'histoire ». Le témoignage d'une réfugiée, victime à l'origine de son exil du fondamentalisme religieux, et qui permet d'avoir une meilleure compréhension des personnes que sont les réfugiés dans le monde. Et l'interprète qui a brillamment assuré la traduction de cet entretien s'appelle Marguerite Capel. En voilà un autre, qui dans son genre est plutôt brillant aussi, c'est Joseph Chovanec qui nous rejoint.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Il est temps, avant de se quitter, de faire un petit détour en Autistan. Et notre guide, évidemment, c'est Joseph Chovanec. Bonjour Joseph.
Moyenne, bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Vous nous incitez à ouvrir nos esprits pour regarder le monde autrement, avec vos multiples casquettes de philosophe, autiste Asperger et voyageur, bien sûr. Et parfois, pas besoin d'aller bien loin pour découvrir le monde autrement.
Oui, Sophie, quand on regarde la carte du monde ou alors quand on suit les préjugés, le Luxembourg, c'est un tout petit pays. Hein. Et beaucoup de gens ne prennent pas le Luxembourg au sérieux. Mais quand on y est, on a une autre impression. Ce n'est pas si petit que ça, bien au contraire. Hein. Et vendredi, j'y étais à nouveau. J'ai revu un ami, un vrai luxembourgeois, le cœur sur la main. Nous sommes parti en voiture pour Esch-sur-Alzette, c'est une localité au sud du pays. Mmh. Avec son débit à peu près aussi lent que le mien, il m'a raconté que quand il avait eu son permis, il n'osait pas sortir de la capitale. Pour lui, aller à Esch-sur-Alzette, c'était beaucoup trop loin, impensable.
Alors, j'avoue que je ne connais pas cette localité, mais ça ne peut pas être très loin quand même, puisque le Grand-Duché a une superficie, j'ai vérifié, de 2586 mètres carrés au total, c'est-à-dire 5 fois plus petit que l'Île-de-France.
Oui, Sophie, et sur la carte, les deux villes sont distantes de, mettons, 12 kilomètres environ. Hein. On aurait tort de se moquer de l'intellect de mon ami. Hein. Il parle avec une égale aisance 4 langues, comme presque tous les luxembourgeois d'ailleurs. Il sait parfaitement ce qui se passe en France, en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays. Hein. Il n'y a pas plus européen que lui. Simplement, l'ailleurs, l'autre, eh bien, cela peut être à toute petite distance de chez soi. Hein. Et ce constat explique une curiosité. Hein. Les étrangers, je veux dire les non-luxembourgeois, se demandent s'il n'y a pas un risque de confusion entre Luxembourg en tant que pays et Luxembourg en tant que capitale. Mais ce risque n'existe pas, car les luxembourgeois n'utilisent guère le nom de la ville de Luxembourg. Ils nomment toujours les quartiers de la capitale. Mmh. Et on retrouve de ce fait la diversité d'un grand pays. Hein. Un peu par curiosité, j'ai demandé à mon ami ce qu'il avait fait pendant l'été. Hein. Après un moment de rêvasserie, il m'a dit qu'il était allé dans le Grand Nord, oui, vous voyez cette zone sauvage, inexplorée, autour de Trois-Vierges, où d'ailleurs il n'était jamais allé.
Vous êtes ironique, mais on ne parle pas du Grand Nord près du pôle, là.
Oh, le Grand Nord du Luxembourg, voilà. C'est un exotisme tout aussi garanti. Et mon ami avait ajouté avec un sourire, merci Covid. Mm. Ces moments passés avec mon ami m'ont donné à réfléchir avec les limitations de déplacement qui sont sans doute là pour longtemps. Mm-hmm. Hein. Les voyages deviendront de plus en plus savoureux et dépaysants. Avant le virus, rien de plus banal que d'aller en Allemagne ou à Amsterdam. C'était presque lassant. Hein. Une obligation de plus dans une journée bien chargée. Mais à présent, la simple perspective d'y aller me fait ressentir le même niveau de palpitation intérieure que quand naguère je partais pour un inconnu lointain, pour un voyage risqué, mettons, le Yémen.
Ouais, en fait, on redécouvre des lieux qui sont proches.
Oui, et à vélo, c'est encore mieux, plus discret. Hein. Fort logiquement, hier, j'ai passé une excellente journée en faisant un petit tour à vélo jusqu'aux Pays-Bas, en passant la frontière par un petit chemin de terre. Que du bonheur quand on voit apparaître la fameuse borne de pierre blanche, toujours la même, surmontée d'une couronne noire qui marque les limites des Pays-Bas. Ensuite, on s'immerge un peu dans la culture locale, ne fût-ce que quelques instants, hein, un petit bain culturel à distance, en se faisant passer pour un néerlandais à vélo, rien de plus facile si on sait pédaler vite, hein, bien sûr. Hein. Ensuite, discrètement, vérifie si la voie de retour est libre et c'est reparti pour quelques dizaines de kilomètres pour rentrer avec un énorme sourire cette fois. Hein. En somme, le Covid pourrait avoir redonné de la saveur au petit voyage. Hein. Cela me fait penser à ce dicton luxembourgeois. Plus tu es petit, plus tu dois sauter haut pour qu'on te voie. Et j'aurais envie de t'ajouter, plus tu découvres de choses quand tu pédales.
Et ces petits voyages, ils vont nous manquer pendant quelques semaines, mais on les refera bientôt, très bientôt. Merci Joseph.
Filmos, merci.
Et à dimanche prochain. Clap de fin, on referme les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés. Vous pouvez réécouter l'émission comme d'habitude sur europe1.fr, la partager aussi, n'hésitez pas. Et voilà l'ami Nicolas Carreau qui est arrivé. Dans quelques minutes, ce sera La Voix et Livre. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, Nicolas ?
Alors, spécial Goncourt aujourd'hui. On connaît les quatre finalistes. Et même si la remise du prix a été reportée, là, je reçois le président du jury, Didier Decoin, et ça Françoise aussi. Chandernagor. Et on va parler des coulisses du Goncourt. Comment ça se passe ? Comment on choisit comme ça ? C'est quand même assez fascinant.
Et ça nous donnera encore plein d'idées de lecture à récupérer, évidemment, dans vos librairies de quartier. Au pire, avec le click and collect, hein, on commande sur internet et hop, on va chercher ses bouquins. Bonne émission, Nicolas.
À tout à l'heure.
Un grand merci à Marc Fréjean qui a réalisé ses carnets, à Marion Gauthier qui m'a aidé à les préparer. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.